mot à mot. Mot à mot.
Tu dois dire A, c'est ça?
Tu mets. Ouais, je dis mot, tu dis à mot. Et après, tu dis mot et je dis à mot.
Ah bon, mais il avait dit A.
Je trouve que c'est super comme philosophie.
Mot à mot ou mot à mot.
Nous sommes tous pour autant que ces mots aient un sens précis.
Mot à mot.
Il n'y a que deux syllabes qui valent la peine d'être prononcées. Tu parles sans avoir la moindre idée de ce dont tu parles.
Il n'y a pas de mots pour dire ce que vous êtes. Il n'y a plus de mots.
Vous m'avez dit un tas de foutus trucs, je vous jure.
Bienvenue dans l'émission Mot à mot, l'émission société et politique qui donne la parole aux jeunes. Que pensent-ils de notre société, de la politique actuelle? Quel est leur ressenti par rapport à leur environnement? Quelles sont leurs attentes, leurs envies dans cette société? Et se sentent-ils vraiment concernés par les discours politiques? Aujourd'hui, nous recevons Raphaël. Tout de suite, la présentation.
Alors bonjour, je m'appelle Raphaël Delinche, j'ai 21 ans, je suis actuellement étudiant en communication à l'ITIC, donc à la fac, en troisième année. À côté de ça, je suis aussi vendeur, à temps partiel, à 15h, pour avoir un peu d'argent pour la vie étudiante, dans un magasin de yaourt glacé qui s'appelle Yao Yao, qui est grand rue Jean Moulin. Sinon, j'ai pas mal de passe-temps. Mon principal passe-temps, on va dire, c'est de faire de la musique. Donc, j'ai commencé la batterie très tôt, à 6 ans, après à produire sur ordinateur à peu près 13 ans. Et du coup, là, c'est un peu ce qui me prend tout mon temps quand j'ai pas de cours à travailler. Voilà.
Vous êtes à Montpellier 3 étudiant. Quels sont vos objectifs professionnels?
À court terme, j'aimerais bien intégrer un master. Je sais pas trop lequel, à vrai dire. Après, à long terme, ça serait vraiment travailler dans l'industrie culturelle, plutôt industrie musicale, du coup, peut-être pour pouvoir me faire déjà un réseau par rapport à ma passion principale. Et sinon, bah, là, j'ai eu l'occasion récemment de travailler pour Tropisme dans le cadre d'un cours, le festival. Et du coup, j'ai pu voir un peu les dessous de l'organisation. C'est vraiment un milieu qui m'intéresse, donc ça m'oriente un peu plus dans cette optique. Actuellement.
Vous nous avez dit que vous travaillez à côté de vos études, ça se passe bien? C'est pas trop compliqué de gérer les deux?
Ça peut être un peu compliqué quand on fait 8 heures d'affilée et que le soir après on doit encore travailler ou quoi. Mais non, c'est surtout un gain d'argent, donc on crache pas dessus, ça permet de mieux vivre le reste du temps, donc non, ça va.
Vous trouvez que c'est difficile actuellement dans notre société quand on est étudiant de pouvoir financer ses études?
Non, parce qu'après là j'ai quand même la chance d'être dans le public, je suis pas boursier à un très gros échelon, je crois que je suis au premier. Et du coup, j'ai que l'inscription qui est remboursée, quelque chose comme ça. Donc ça va encore, là, j'ai pas énormément de frais. C'est plutôt des frais des à côté, donc l'appartement, la vie de tous les jours. Et puis on est jeune, donc on sort, donc il y a aussi voilà. tout ça à financer. Non, ça va, c'est surtout les écoles privées sur lesquelles j'ai tendance à cracher. Et là, c'est pas un système, pour le coup, qui me convient d'acheter son diplôme à 6 000 euros. Mais je ne suis pas dans des écoles privées, donc j'ai pas trop à dire. Non, ça va.
Vous auriez aimé faire une école privée?
Pour ce qu'elle peut apporter comme réseau et comme structure, parce que j'ai quand même tendance à être vachement en roue libre si je ne suis pas trop cadré. Du coup, c'est un petit peu un des travers de la fac. Donc pour toutes ces choses-là, l'école privée me convient. Après, c'est vachement pas mal de poudre aux yeux, mais ça, c'est lié au fait que ça soit privé. Donc bon, voilà. Si c'était les mêmes écoles, mais version publique, peut-être que oui, j'aurais tenté l'expérience.
C'est la rubrique « Actualité ». J'aimerais connaître votre rapport aux médias. Est-ce que l'information médiatique a une place importante dans votre vie?
Alors, l'information médiatique, oui. Après, ça dépend des sources. Je suis un peu comme pas mal de jeunes de mon âge. Je vais beaucoup sur Facebook, sur les réseaux sociaux. Je dirais pas que c'est pas du tout ma première source d'information, hein. Mais j'ai vachement tendance à cliquer sur les articles que je vois apparaître dans ma timeline. Sinon, j'ai un rapport avec certains médias traditionnels qui est assez intéressant, mais c'est pas énormément, c'est juste j'achète 2-3 quotidiens de temps en temps, Le Monde ou Libé, et puis sinon après des magazines vraiment spécialisés pour dans la musique ou quoi. Donc je suis l'information, mais je j'ai pas la télé par exemple, donc je regarde pas les débats, là j'en vois que les résumés, je les regarde pas, des trucs comme ça. Donc je m'informe, mais on pourrait s'informer beaucoup plus.
Du coup, c'est le web qui vous donne le plus d'informations?
Ouais, bah c'est la première source d'information pour moi. Ouais, j'achète vraiment des quotidiens. Quand je dis de temps en temps, c'est un ou deux par mois, hein, maximum. Et parfois, je prends le Metro News ou Minute, mais bon, c'est pas grand-chose. Donc oui, c'est vraiment le web. Ouais.
Et sur le web, quand vous regardez les articles, vous connaissez un peu les sources? Vous savez si ça vient de grands journaux ou c'est des petits médias?
Alors ouais, je suis pas du genre à me laisser embobiner dans des articles un peu chelous, où la source est pas claire, enfin voilà. Non, je me laisse pas embobiner par le Gorafi, par exemple. Mais oui, c'était quoi la question du coup, pardon?
Savoir si vous vérifiez les sources de ces
articles-là. Oui, je vérifie les sources. Bon, après, j'accorde ma confiance assez facilement, mais quand c'est vraiment un truc institutionnel, où je sais que de toute façon, je peux faire confiance.
Vous trouvez que c'est important dans votre vie, l'information?
Oui, surtout qu'il y a de plus en plus d'informations, donc oui, c'est important de faire le tri déjà, de savoir lesquelles sont primordiales. Et oui, on est entouré des mêmes personnes à longueur de journée, nos amis, nos collègues, nos profs, mais on ne sait pas finalement vraiment ce qui se passe à l'autre bout du monde, ce qui se passe dans d'autres endroits. Et vu qu'on ne le voit pas, quand on sait qu'il y a une guerre quelque part ou qu'il y a un grand traité qui vient de se signer quelque part, on n'en voit pas l'incidence directement sur notre vie. Donc c'est important de le savoir et de se renseigner.
En ce moment, l'actualité, elle est très politique avec les présidentielles, mais elle est aussi, hélas, très dramatique avec les événements récents en Syrie. Le régime syrien est accusé d'avoir utilisé un agent neurotoxique qui a tué des adultes et des enfants. Est-ce que vous la suivez, l'actualité internationale?
Alors là, pour le coup, c'est intéressant que vous me posiez cette question, parce que c'est vraiment un débat auquel j'ai énormément participé ces derniers temps. J'avais commencé à m'y intéresser vraiment à l'époque où je crois que la France était en partie liée un peu, où il y avait eu des victimes collatérales, ça avait fait un gros scandale, il y avait eu 100 victimes ou je sais plus quoi. Et là, j'avais pris conscience que nous, en plus, on était liés à tout ça et qu'on avait une part de responsabilité. Donc oui, je suis vachement, et je m'indigne surtout sur cette situation-là. Ouais.
Et justement, quand on a 21 ans, qu'on vit dans un pays démocratique, un pays riche, comment perçoit-on la guerre et la mort des autres?
C'est vraiment glauque comme
oui.
Question. Je sais pas si on en a trop conscience. Moi, j'ai pas côtoyé la mort dans ma famille beaucoup. Il y a des gens qui subissent des pertes. Moi, j'en ai subi une de ma grand-mère, mais c'est pas énorme. Donc, je pense pas avoir conscience vraiment de ce que c'est, de ce que ça implique. Alors moi, c'est surtout de voir toutes ces images horribles en soi qui me touchent. De le savoir me touche moins que de les voir, voilà. Mais après, comment on l'aperçoit, je saurais pas vraiment vous répondre. C'est horrible. On sait que c'est horrible, mais ça veut pas dire qu'on ressent que c'est horrible.
Et l'utilisation d'armes chimiques, ça vous pose problème? Ça vous questionne?
Oui, ça pose un gros problème, surtout quand c'est des civils qui sont tués. Déjà, même quand c'est des soldats, c'est horrible, alors si en plus c'est des civils. Mais oui, ça pose problème, parce que déjà, ça rappelle, entre guillemets, les heures sombres de l'histoire. Enfin, le Zyklon B, quoi, les armes chimiques, c'est un peu ça. Et puis surtout, c'est un moyen horrible de souffrir. Encore qu'on veuille tuer quelqu'un, ok, mais à la limite, qu'on abrège les souffrances. Là, de voir des gosses qui agonisent pendant 10 minutes avec des gens qui les aspergent d'eau pour essayer de les sauver, enfin, c'est horrible.
Justement, hier, le journal Libération a fait polémique, notamment sur les réseaux sociaux, avec sa une sur les enfants d'Assad, avec la photo donc, d'enfants morts. Certains parlent de presse à sensation, d'autres d'une presse réaliste. Et vous en pensez quoi, tout ça?
Je peux comprendre qu'on dise une presse à sensation, parce que forcément, on voit cette image, on est choqué, donc ça retient notre attention, donc on va peut-être acheter le journal. Mais je pense pas que ça soit dans cette optique-là qu'a fait Libération. Je pense que Libération a un ethos, pour le coup, une image qui est assez institutionnelle. On sait que ils veulent pas forcément vendre, ça reste du reportage d'investigation, je pense, pour la plupart du temps. Donc ayant cette image-là, non, je pense que c'était vraiment dans une volonté d'interpeller et de décrire ce qui se passe ailleurs. Donc ça ne me choque pas, et je pense au contraire que c'était bien de le montrer. Alors pour le coup, l'image me choque, hein. C'est vraiment la volonté de la montrer qui ne me choque pas trop.
Vous pensez que ça va sensibiliser toutes les formes de public de montrer des enfants morts?
J'aimerais, mais il y a toujours ceux qui déjà se disent que c'est ailleurs, donc ça ne les touche pas. Il y a ceux qui se disent bien fait pour eux, j'espère qu'ils ne sont pas nombreux ces gens-là, mais il y en a qui se disent ça malheureusement, parce qu'ils ont toute une histoire dans la tête, c'est des Syriens, donc c'est des terroristes, donc c'est bien fait pour eux, même si c'est les enfants, même si c'est les cousins, enfin, peu importe. Et donc j'aimerais que ça sensibilise les gens, mais pour l'instant, je vois dans ma tranche d'âge, donc je ne sais pas les autres tranches d'âge, mais dans ma tranche d'âge, il y a énormément de gens qui s'informent sur Facebook, qui débattent sur Facebook. Et pourtant, il y a des ONG comme Syria Charity, d'autres qui font souvent le buzz, qui tapent dans les 30 000 vues dans des vidéos, 30 000 likes. Et du coup, je suppose qu'ils sont très médiatisés, ils informent sur la situation là-bas et je n'ai pas l'impression que pour autant les mentalités changent. Donc peut-être que oui, un média traditionnel, entre guillemets, un journal papier qui fait une là-dessus, peut-être que ça va sensibiliser, mais je ne pense pas que ça ait une grande incidence.
Vous faites une licence communication nouveaux médias. Est-ce que ça vous a permis un petit peu de développer vos sens pour réceptionner l'information?
C'est vrai que je pense que ça m'a un peu ouvert mon esprit critique. Après, bon, voilà, ça reste que 3 ans, on ne devient pas un expert en médias. Oui, je pense que ça m'a permis en tout cas de prendre conscience que l'information est importante et qu'il faut savoir déjà faire le tri, savoir d'où elle vient, enfin voilà.
Sujet politique.
Allez, on va revenir à la vie de tous les jours. Et la vie de tous les jours, c'est les réseaux sociaux notamment. Et vous avez dit que ça vous intéressait beaucoup. En termes de politique, comment vous voyez la présence des hommes politiques sur les réseaux sociaux actuellement ?
Bah, à titre personnel, j'aime bien Mélenchon, par exemple. Voilà. Donc je suis un peu ce qu'il fait. Je pense que c'est la communication pour moi, en plus, qui est la plus élaborée. Donc je vois, le mec a une chaîne YouTube, il a une page Facebook où il est vachement présent, même son truc d'hologramme, là, enfin voilà, il a une communication qui est vachement, vachement présente. Pour le coup, je vois de temps en temps, parce que j'ai des amis qui sont de tous bords politiques, donc je vois un peu quand il est avec un truc, ça apparaît, donc je vois un peu la communication des autres. J'ai pas l'impression qu'ils poussent à fond tous les réseaux sociaux et qu'ils comprennent un peu leur utilité. À part Mélenchon et sa chaîne YouTube, et encore, forcément, elle est perfectible. C'est pas un youtubeur, c'est pas un mec qui dit balance un pouce bleu à la fin de sa vidéo. Enfin voilà, ça reste un homme politique. Mais je pense qu'ils sont quand même tous bien entourés et qu'il y a vachement des efforts à faire pour beaucoup, en tout cas. Ils poussent pas à fond le truc.
Et qu'est-ce qu'il y a derrière ce j'aime bien Mélenchon? C'est les idées qui vous attirent ou cette forme de communication qui vous a éveillé à son programme ou à sa personne?
Bah après, moi, j'ai découvert son programme parce que mon père l'a acheté à titre informatif. Hein, il n'est pas forcément pour Mélenchon. Mmh. Donc j'ai lu son programme. Après, c'est vrai qu'au niveau d'Internet, je l'ai découvert et j'ai découvert toutes ses pages Facebook, ces trucs comme ça, par une abondance de communication parce que ses vidéos sur YouTube, ses revues de la presse et tout, elles sont toujours mises en avant en fait. Donc ouais, j'ai un peu découvert comme ça. Après, moi, c'est pas l'homme que j'aime. Je pense qu'il faut pas se leurrer, le mec il fait complètement partie du système qui décrit. Moi, c'est surtout les idées, et c'est vraiment, moi, c'est le seul que je trouve assez humaniste. Après, j'aurais tendance à dire Poutou un peu dans la même veine, mais c'est très con de raisonner comme ça, mais je pense que Mélenchon a plus de chances de gagner, donc je serais plutôt de ce côté-là.
Et vous avez dit quelque chose de très intéressant. Vous nous avez dit que sur les réseaux sociaux, ça permettait de voir en fonction des likes, les likes de nos amis qui s'affichent dans notre fil d'actualité, ça permettait de voir un petit peu les affinités de chacun. Est-ce que c'est pas un peu quelque chose de nouveau, ça, puisque un vote, on le fait quand même normalement à couvert, donc on le fait pas sur la scène publique. Est-ce que ça change quelque chose maintenant, ces réseaux sociaux comme ça?
Oui, bah ça change parce qu'on arrive à savoir à peu près pour qui vote pour qui. Mmh. Après, c'est sûr que quand c'est des amis proches, de toute manière, on en discute souvent entre nous. Donc peut-être qu'on ne dit pas clairement pour qui on va voter, mais on sait un peu ce qu'ils pensent, on connaît un peu leur façon de penser. Non, après, de toute façon, sur Facebook, ça reste des likes furtifs, pardon. On en voit de temps en temps, il y en a un ou deux qui apparaît. Après, j'ai un seul militant vraiment dans mes amis Facebook, et lui, pour le coup, je le vois tout le temps à fond avec Fillon, il fait partie du truc Les Jeunes avec Fillon, il est à ses meetings, il se prend en photo, en selfie avec lui. Enfin, lui, pour le coup, bon, je l'aime un peu moins maintenant que je vois ça, mais non, à part lui, vraiment, mais bon, lui, il est un militant, donc forcément, il a envie de le faire savoir, donc c'est différent. Pour les autres, non, je n'ai pas l'impression que ça change vachement notre rapport à la politique, nous en tout cas.
Et cette forme de militantisme, ça a un impact sur votre connaissance du programme, par exemple. Si on prend votre ami Facebook qui milite pour François Fillon, vous m'avez dit, c'est
François
ça
Fillon, ouais.
Du coup, est-ce que par toutes ces publications, ça vous donne plus d'informations sur le programme, sur la lignée
Non, en fait, ça me donne plus d'informations sur lui, pourquoi, sur le fait qu'il soit militant. Non, en fait, parce que ça reste très superficiel. Il dit qu'il est avec Fillon, il dit que Fillon va redresser la France, mais redresser la France, ça veut tout et rien dire. Et jamais je l'ai vu entrer dans un débat, poster publiquement un truc du genre, bah voilà, Fillon va redresser la France de telle manière parce que tel truc, tel truc, tel truc. Donc non, il m'informe pas sur son programme, il m'informe que lui, il est affilié à un parti politique.
D'accord,
c'est pour ça que je dis que ça n'avait pas trop d'incidence, en fait.
D'accord, c'est une mise en scène, en fait, de sa propre personne, de son implication politique.
C'est comme ça que je le perçois, oui.
Et ce qui est intéressant dans les différentes émissions qu'on a fait jusqu'à présent, c'est que des fois on dit que les jeunes ne s'intéressent à rien, que les jeunes ne s'intéressent pas à la politique. Et souvent, les étudiants ou les jeunes viennent nous dire que cette question politique alimente beaucoup les discussions entre jeunes. Est-ce que c'est vrai pour le quotidien ou est-ce que vous pensez que c'est en raison des élections présidentielles ?
Bah forcément, les élections présidentielles alimentent plus le débat en ce moment. Après, je pense que le cercle des personnes avec qui on va parler politique est assez restreint. On a nos amis proches avec qui on va peut-être pouvoir parler de ça, mais de toute façon, si c'est nos amis proches, on a tendance quand même à devenir amis parce qu'on a la même façon de penser, parce qu'on a les mêmes idéaux, enfin voilà. Donc c'est tout simple, mais dans mon groupe d'amis, même ceux qui sont pas pour Mélenchon ont des idées qui sont plutôt de gauche, plutôt communistes ou quoi, ou anarchistes à la limite. Mais donc on a tous plus ou moins les mêmes idées, donc de toute façon, on va se permettre d'en parler parce qu'il n'y aura pas de désaccord. Après, avec les gens qui votent à l'inverse de moi ou qui ont d'autres idées complètement différentes, je suis même pas sûr de vraiment être proche, assez proche d'eux pour en parler.
Et tout à l'heure, vous nous parliez de débats que vous avez eus avec vos amis justement sur la situation de la Syrie, par exemple. Et vous nous parliez de responsabilité. Vous avez été éveillé à cette question parce que la France avait été impliquée à un moment.
Ouais.
En quoi un citoyen est responsable des actions de son pays ?
Je pense pas qu'on le soit, je pense pas qu'on le soit vraiment, mais on a tendance à le penser, même si on n'est pas un pays qui est extrêmement chauvin, par exemple les États-Unis le sont beaucoup plus, ils ont vraiment l'amour du drapeau, nous on l'a un peu moins je pense, mais on se sent quand même français, et du coup quand on voit que l'institution étatique qui nous représente, le pays, la France, est responsable d'atrocités, forcément on se sent concerné parce qu'on a l'impression qu'on a été englobé dans leurs actions, qu'on y a été rattaché de force, alors qu'on s'en fout là, de base de ce conflit-là. Et en plus, on n'est pas du tout pour cette façon de faire. Donc on a l'impression de s'y sentir rattaché de force. Du coup, forcément, on se sent responsable.
Et si on veut contester ce rattachement, comment, concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous, votre vision personnelle ?
Moi, je ne suis pas le très bon exemple parce que je ne suis pas extrêmement engagé dans tous ces trucs-là. Moi, mon action s'arrête à en débattre sur Facebook. Et encore, ce n'est pas des débats, c'est juste moi qui m'énerve et les gens qui me voient m'énerver. Donc, ce n'est pas des débats, vraiment. Non, j'aurais tendance à soutenir des ONG, comme je parlais de Syria Charity avant, qui amènent régulièrement des convois humanitaires, etc., sur place. Et encore, de toute façon, ils sont aussi la cible des attaques, par exemple. Donc, je ne sais même pas si eux, ils ont réellement une incidence sur le terrain. Mais je ne vois pas, de toute manière, ce qu'on peut faire d'autre. Je ne pense pas avoir assez de poids pour aller voir M. Hollande, lui serrer la main, lui dire « Bon, maintenant, vous arrêtez, c'est pas bien. » Donc, je ne vois pas ce qu'on peut faire, vraiment.
Tout de suite, la question finale.
Alors, on va terminer sur l'engagement le plus personnel qui soit, celui de l'inspiration. Est-ce qu'il y a une entité, une personne qui représente ou quelque chose qui vous inspire ?
Alors, je n'ai pas des grands personnages qui m'inspirent ou quoi. Moi, ça va plus être un musicien, donc c'est Flume. Donc, il y a un musicien que je suivais beaucoup à l'époque où il a commencé à percer. Parce qu'on n'a que 3 ans de différence d'âge, donc déjà ça rapproche. C'est comme à l'époque où il y avait Harry Potter qui était sorti en 2010 ou je sais plus quoi. J'avais à peu près le même âge que Daniel Radcliffe, donc j'avais l'impression de voir mon futur comme un acteur. C'est un peu cette façon de penser. Donc là, du coup, vu que à l'époque où il a percé, j'étais au lycée, lui il en sortait, donc je me suis un peu attaché à ça. Et moi, vu que je fais de la musique à côté, c'est à peu près le même style, donc c'est un mec qui m'inspire beaucoup. Puis il a commencé comme moi, il faisait de la musique dans sa chambre, et maintenant il remplit des Olympias, il fait toujours de la musique dans sa chambre. Donc c'est comme ça que j'aimerais percer si je devais percer. J'ai peut-être un peu moins d'ambition, j'en sais rien, mais c'est un mec qui m'inspire vachement.
Ouais. On va finir sur ces notes musicales. Et on se retrouve, on remercie Raphaël Delinche, merci Camille, et on se retrouve la semaine prochaine sur Divergence FM.
Merci.
Mot à mot, mot à mot.
Tu dois dire A, c'est ça ?
Tu mets. Ouais, je dis mot, tu dis A mot. Et après, tu dis mot et je dis A mot.
Ah bon, mais il avait dit A.
Je trouve que c'est super comme philosophie.
Mot à mot ou mot à mot.
Nous sommes tous pour autant que ces mots aient un sens précis.
Mot à mot.
Il n'y a que 2 syllabes qui valent la peine d'être prononcées.
Tu parles sans avoir la moindre idée de ce dont tu parles.
Y a pas de mots pour dire ce que vous êtes ! Y a plus de mots !
Vous m'avez dit un tas de foutus trucs, je vous jure.